Bon, alors on va clore un petit parcours là avec Kant pour essayer de réfléchir un peu ce statut si particulier de la langue commune au fond, hein. Si particulier, donc si on pense qu'il est au fond le média fondamental par lequel on réfléchit, hein, en philosophie, dans les sciences humaines et en littérature, bien sûr, quoi, par contraste, si ce n'est par opposition, donc, avec l'usage qu'on fait au contraire de la langue commune, c'est-à-dire un rapport plutôt d'éloignement, hein, dans les sciences expérimentales formelles, quoi. Bon, j'avais mis en place la dernière fois une série de jalons liant, comment dire, un certain nombre de conséquences, on peut dire, ou oui, de conséquences liées à l'impératif catégorique, c'est-à-dire de la pensée morale chez Kant, et puis un certain nombre de traits, on peut dire, caractéristiques de la littérature notamment, quoi. Alors, ce que je voulais faire ici, si on avait parlé, c'était faire un développement rapide, qui suppose une mise en place générale sur l'esthétique kantienne. Bon, c'est à la fois extrêmement vaste, et donc ce que je veux proposer, c'est une espèce de synthèse de choses un petit peu vraiment de base, on va dire, chez Kant, quoi. Bon, alors ça m'intéresse parce que, évidemment, ce qui est réfléchi là, c'est à la fois une certaine dimension de la sensibilité, quoi, et d'une sensibilité commune, puisque chez Kant, au fond, ce qui sert au fond d'idéal au goût, c'est ce qu'il va appeler, lui, le sens commun. Il va utiliser une expression qui est celle du sens commun. Pour dire que devant le beau ou devant le sublime, il est nécessaire, hein, que tout un chacun fasse une certaine expérience. Alors, cette nécessité, parfois, il se trouve qu'elle est obérée, quoi. Mais cela dit, voilà, si nous sommes dans une bonne disposition, il y a une certaine nécessité d'un accès à une forme de vérité de l'œuvre d'art, quoi. Et ce qui m'intéresse en outre, enfin en rapport avec cette façon dont la question de la vérité en art, au fond, hein, ou plutôt dans le jugement esthétique, engage cette dimension d'un sens commun, c'est qu'en même temps, il y a bien dans l'esthétique de Kant, si on réfléchit un petit peu autour de la question du sublime notamment, un rapport à la question de la loi. Il y a bien la question de la loi qui se profile. Donc du coup, voilà, je voudrais, il y a quelque chose ici qui fait lien, en somme, entre notre motif, enfin notre questionnement sur l'impératif catégorique, et puis disons ce qui fait loi pour le sens en philosophie et en littérature. Alors, je vais juste faire un petit rappel comme ça en préliminaire avant de me lancer dans ce travail de synthèse, au fond. J'avais évoqué que la dernière fois l'idée que comment dire ça, l'impératif catégorique impliquait au fond qu'on se rapportait à quelque chose qui nous excède infiniment, que la loi nous excède. Justement, sans quoi, au fond, elle serait simplement l'objet d'un calcul. si on pouvait, au fond, se rapporter à la loi comme à quelque chose qu'on mesure, si notre rapport à la loi pouvait être strictement mesuré, quoi, calculable, au fond, ça ferait pas loi. Tout simplement parce que, effectivement, on rentrerait dans une logique du calcul et finalement dans une logique de l'intérêt, quoi. Et c'est autour de ce motif, du coup, de l'excès de la loi, j'avais essayé de réfléchir, finalement, ce que j'ai essayé de désigner comme un impératif littéraire, quoi. Voilà, comme un impératif de la lettre, quoi. Cette façon dont la littérature est travaillée par la nécessité, l'impératif d'être toujours dans une sorte d'excès, au fond, sur la lettre telle qu'elle est constituée, sur la langue telle qu'elle est pratiquée ordinairement. Voilà. Mais cet excès, en même temps, n'est pas l'excès qui nous emporte dans le travail scientifique. C'est un excès qui, en même temps, reste dans l'élément de la langue commune. Alors, voilà, je voulais rappeler, comme c'est un peu en préliminaire, cette question de la mesure, hein, et de la démesure de la loi. Alors, la question de l'esthétique chez Kant. Pour esthétique, ça vient du grec, hein, esthésis, hein, la sensation, quoi. Bon. Il y a une chose qu'il faut comprendre, parce que souvent ça amène à une espèce de confusion sur ce qu'est celle de penser Kant, en fait. L'esthétique de Kant, en fait, c'est une réflexion sur le jugement. C'est-à-dire que Kant ne réfléchit pas du tout les objets d'art. D'ailleurs, il est pas cultivé du tout là-dessus, quoi. Les exemples qu'il utilise dans sa critique de la faculté de juger, les parties concernant le beau et les parties concernant le sublime, sont des exemples extrêmement banals. Donc Kant, c'est pas un spécialiste du tout de l'art, il n'a pas une démarche de réflexion sur des mouvements, des courants artistiques. Il réfléchit pas à l'histoire de l'art, il réfléchit pas à les objets d'art. Ce qui l'intéresse, lui, c'est réfléchir le jugement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je dis que quelque chose, par exemple, est beau. C'est quoi ce type de jugement? Les objets d'art, ils s'en fichent, au fond, Kant. C'est pas ça l'objet de son interrogation. C'est une réflexion plus, finalement, sur les catégories de la pensée, beaucoup plus de type logique, finalement, quoi. Alors, c'est pour ça que, pour exposer, au fond, pour développer sa réflexion esthétique, qui est en fait une réflexion sur la faculté de juger, donc, hein, il va en passer par les quatre grandes catégories qu'il a lui-même mis en place, qui renvoient à toute une tradition catégorique qu'on trouve dans la critique de la raison pure, etc., les grandes quatre catégories de la pensée, c'est-à-dire la façon dont font l'esprit, hein, catégorise le monde, hein, lui impose en somme une certaine grille de lecture à partir de quoi le monde, l'esprit peut juger, quoi, les pensées. Bon. Alors, l'esthétique, ça concerne premièrement, en fait, ce qui, dans la représentation d'un objet, est simplement subjectif. C'est-à-dire, le subjectif en un sens particulier, hein, c'est pas le subjectivisme, le relativisme de chacun sens qu'il veut, hein, pas du tout, justement. Mais en tout cas, c'est ce qui est engagé dans la question esthétique, c'est l'effet, excusez-moi, c'est pas une détermination de l'objet, c'est une détermination de ce que j'éprouve à la vue, par exemple, de tel objet. Bon, et puis le deuxième point, très général. C'est de marquer tout simplement, hein, que Kant il distingue deux sortes de jugements esthétiques, les jugements qui portent sur le beau, et jugement qui porte sur le sublime. Alors, je vais faire un petit développement sur le beau, hein, le sublime finalement impliquant tout un tas de catégorisations qui sont développées concernant le beau, quoi. Alors, du point de vue de la catégorie qu'on appelle la qualité, c'est pas très important là pour ce que je veux dire. Quand il donne cette définition du jugement qui porte sur le beau, qu'il appelle le goût en général, il dit le goût, c'est la faculté de juger un objet ou un mode de représentation, si c'est un tableau par exemple, par la satisfaction ou le déplaisir d'une façon toute désintéressée. Donc on appelle beau l'objet de cette satisfaction. Alors, à l'inverse, elle est seulement agréable ce qui plaît au sens dans la sensation. C'est pas la même chose, le sentiment du beau, le jugement sur le beau, et le sentiment de l'agréable. Pourquoi ? Parce que la satisfaction produite justement par l'agréable, c'est une satisfaction, elle, qui est liée à un intérêt. Alors que la marque du beau, c'est au contraire qu'il y a des intérêts. Pas des intérêts au sens où on s'en fiche. En tout cas, ça n'a pas de fin, ça n'a pas de but. Ça n'a pas d'utilité. Donc un sentiment esthétique, de ce point de vue, est autre chose qu'une sensation agréable. Donc, ça revient à dire que le beau est l'objet d'une satisfaction désintéressée. Alors, deuxième caractérisation, ici qui nous renvoie la catégorie de la quantité, indique. Là, c'est une définition assez connue d'ailleurs. De Kant qui est que est beau ce qui plaît universellement sans concept. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Plaire universellement sans concept. L'idée que je vais l'expliquer pas tout à fait comme Kant l'expliquerait, mais l'idée que si je peux rendre compte et conceptualiser ce que j'éprouve comme beau, si je pouvais rendre raison de la beauté ou de ce que j'éprouve comme tel, et mettre ça en concept, mettre ça en discours. Et qu'au fond, ce discours-là disait toute la vérité de l'objet, j'aurais plus besoin de l'objet, quoi. Je pourrais tenir simplement un discours déterminant sur la chose, quoi. Comme je peux dire la vérité d'un objet, par exemple en science, quoi. Justement, un jugement esthétique, c'est pas ça. Ce qui est engagé dans un jugement esthétique, c'est une épreuve, en fait, en présence, c'est une épreuve d'une certaine vérité, mais en présence, qui engage une dimension de ma sensibilité et qui l'engage d'une manière singulière. Et c'est à cette épreuve en présence singulière que je me rapporte et qu'on est obligé de se rapporter pour comprendre ce qu'il en est la vérité de cet objet, quoi. Voilà. Peut-être c'est toute l'espèce de difficulté, parfois de frustration qu'on a devant une œuvre d'art. Vous savez bien, à la fois on peut être bouleversé parce qu'on va voir, les peintures de Bonnard, c'est, il y a quelque chose qui est extraordinaire, on le voit bien, et en même temps, si on veut en parler, il y a une espèce de frustration terrible qui est que on est pauvre en mots, bien souvent. Et même quand on arrive à dire des choses, ce qu'on va dire va se rapporter à l'expérience singulière en présence qu'on a faite ou qu'il faut faire de toute façon, quoi. Mais jamais on pourra rendre raison purement conceptuellement de la vérité de l'œuvre, puisqu'au contraire, il faut se rapporter à cette épreuve singulière en présence. Bon, ce qui fait que le jugement de goût, hein, jugement sur le beau, il est toujours singulier, tandis que les concepts sont toujours généraux, quoi. Trop généraux pour ce qui est en jeu dans l'œuvre d'art. Bon, l'autre différence avec les concepts, c'est que le jugement de goût, du coup, est toujours subjectif, en un sens. Alors qu'un concept doit être objectif. Bon. Et puis, il s'agit donc d'une universalité qui est esthétique et non pas logique. Et par là, du coup, on peut distinguer le beau de l'agréable et le beau du bon, au sens moral. Bon, pourquoi ? Parce que l'universalité du bon, j'en avais parlé, elle repose sur des concepts de l'objet qui font que chacun est dans l'obligation de le juger de la même façon. Justement, c'est bien un des enjeux de la pensée de Kant d'essayer de fonder rationnellement l'exigence morale, en somme. Alors que le jugement de goût, on se contente de l'attribuer à chacun. En somme, il faut que chacun pense comme ça. Quand je dis c'est beau, je ne prétends pas dire... ça a bon goût au sens de ça a bon goût le chocolat chaud. Je prétends dire quelque chose qui doit valoir pour tout le monde. En même temps, je ne peux pas établir, encore une fois, un concept, pourquoi ça doit valoir absolument pour tout le monde. Voilà. Là, c'est l'intérêt, c'est tout le problème, quoi. Bon, et de ce point de vue, cette universalité esthétique, elle se distingue aussi de l'expérience de l'agréable, puisque l'agréable, lui, il repose sur une fausse universalité. Donc, Kant, il a un exemple connu, là, il parle du petit vin des Canaries, ce qui va me faire dire que le petit vin des Canaries est bon. C'est comme l'exemple du cacao dont je vous parlais, quoi. Ça ne peut pas avoir de prétention, là, ce qui fait que moi j'aime le petit vin des Canaries. Ça ne peut pas du tout avoir le même type de valeur comme jugement que ce qui me fait dire que quelque chose est beau, quoi. Voilà. Ce qui me fait aimer le petit vin des Canaries, bon, visiblement, ça ne doit pas être un très bon vin. C'est la même chose que ce qui me fait dire que, je ne sais pas, moi, un bain très chaud, c'est bon. En fait, c'est très subjectif. C'est bon pour moi. Et quand je dis ça, je ne peux pas prétendre que tout homme, parce qu'il est doté de raison et d'une sensibilité, doit éprouver que le bain très chaud, c'est bon, quoi. Bon, fausse universalité, donc. Là, c'est ma subjectivité qui intervient, mais au sens de ce qu'elle a de complètement contingente, quoi. Bon. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans le jugement sur le beau? Qu'est-ce qui nous permet d'universaliser nos jugements? C'est-à-dire, donc, d'attribuer à chacun... le sentiment que nous éprouvons en face de l'objet. Alors, Alors Kant va dire que nous sentons, dans ce jugement, hein, nous sentons une harmonie naturelle qui n'est pas fondée donc sur des concepts, une harmonie entre notre imagination et notre entendement. Voilà. Bon, il reprend de ce point de vue hein, l'idée classique hein, que dans la beauté, dans le jugement sur le beau en tout cas, il y a l'expérience d'une forme d'harmonie, quoi. Ici, c'est donc une harmonie entre nos facultés sensibles et nos facultés intellectuelles. Harmonie qui doit donc être valable pour chacun hein, et du coup communicable universellement. Bon, alors, petite précision là, c'est que l'harmonie entre notre imagination hein, et notre entendement. Quand Kant parle d'entendement, il désigne quelque chose de précis. L'entendement, c'est pour lui la faculté des concepts. Voilà. Alors qu'on a une sensibilité, hein, la faculté d'éprouver des sensations, évidemment. On a un entendement, faculté de former des concepts, et on a une raison. Et la raison, c'est très distinct, l'entendement, chez Kant. La raison, c'est pas la faculté des concepts, c'est la faculté des idées. Voilà. Et la différence entre les concepts et les idées, c'est que les concepts renvoient à une expérience possible. Voilà. Alors que les idées excèdent toute possibilité d'une quelconque expérience. Voilà. Dieu, c'est une idée, par exemple, pour Kant. J'ai donc. On ne peut pas dire ça, c'est-à-dire que le concept renvoie à une. Comment dire. Permet de définir une universalité. Comment dire. Que je vais pouvoir en somme fonder aussi sur l'expérience en somme. Me renvoie une expérience possible. Alors qu'on a en nous, pour Kant, ce qu'il appelle donc des idées, pour lesquelles aucune expérience n'est possible. Parce que ce sont des idées qui renvoient à, qui sont justement, qui sont pas, qui, comment dire, qui renvoient à des réalités qui ne sont pas à notre mesure. Oui, alors, par exemple, oui, c'est ça, voilà. Dieu notamment, voilà. Tout à fait. Pour Kant, on pourrait. Oui, la mort, faudrait voir. Oui, enfin, en tout cas, comme passage, quoi. Hein, si on pense la mort comme passage, ouais. Voilà, mais bon, dans la critique de la raison pure, hein, dans toute cette espèce de. D'analyse au fond du fonctionnement, on peut dire aussi de notre pensée, quoi. Les idées, en même temps, permettent, orientent notre entendement, hein, une fonction d'orientation. Voilà. Elle excède, on ne veut pas prouver la valeur d'une idée, au fond, puisqu'il n'y a aucune expérience possible hein, qui puisse lui correspondre, mais en même temps, elles ont une fonction d'orientation de notre entendement, quoi. C'est-à-dire qu'elles assument au fond un principe de cohérence, quoi, un principe d'unité, à titre d'idéal. Même si cette unité, par principe, ne peut pas être atteinte, quoi. Voilà. Bon. Alors, ce que nous dit Kant, à partir de là, c'est que, eh bien, l'universelle communicabilité subjective, donc des représentations dans un jugement de goût, qui doit se produire donc sans supposer un concept déterminé. Il faut qu'on suppose qu'il y ait une communicabilité universelle que tout homme va éprouver. La même chose, doit pouvoir l'éprouver, devrait l'éprouver. Qu'il y ait une vérité qui se communique à tout à chacun. Mais sans concept, ça ne peut être autre chose donc, que l'état d'âme, va nous dire Kant, l'état d'âme résultant donc du libre jeu de l'imagination et l'entendement. L'imagination, médiatisons-nous, temps, l'espace, des formes sensibles en fait. Alors, ça nous conduit du coup à la troisième grande détermination, ici qui se fait donc du point de vue de la relation. On aurait du coup la définition suivante. La beauté, nous dit Kant, donc du point de vue de la relation, est la forme de la finalité d'un objet en tant qu'elle y est perçue sans la représentation d'une fin. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas compliqué. C'est-à-dire, ouais, la beauté est la forme de la finalité d'un objet en tant qu'elle y est perçue sans la représentation d'une fin. Okay, j'essaie d'expliquer ce qu'il veut dire. En fait, c'est que le beau, ça recoupe, mais un peu déplacé des choses que finalement on vient de voir, c'est que le beau suppose une finalité sans idée de fin. C'est-à-dire que la beauté atteint, finalement, l'épreuve de la beauté, l'expérience de la beauté, finalement, elle atteint une finalité qu'en même temps, on ne cherche pas. Voilà. C'est au fond l'expérience d'une finalité sans fin. C'est-à-dire que si je visais une fin, je ne pourrais pas manquer de viser un intérêt, quoi. Voilà. Mais en même temps, il y a bien quelque chose qui s'harmonise dans mon esprit. Donc ça veut bien dire qu'il y a une sorte de finalité. Pour Kant, il analyse ça comme ça, il va dire c'est bien qu'il y ait une forme de finalité de mon esprit, de mon entendement, en l'occurrence, là. Il y a bien quelque chose qui vient s'ordonner et qui vient rencontrer finalement quelque chose de sa vérité, quelque chose de sa finalité. Mais en même temps, cette finalité, dont je fais l'expérience sur le mode d'une harmonie, cette finalité, je ne peux pas la nommer, je ne peux pas la viser, quoi. Voilà, une finalité, il y a bien une harmonie, donc il y a bien quelque chose qui s'ordonne, mais en même temps, sans fin. Voilà. De toute façon, je ne sais pas, une des façons dont on peut entendre ce vers-là du poète allemand là, du XVIIe siècle, Angelus Silesius, la rose est sans pourquoi. Bon, on peut l'entendre de façon différente, mais la beauté de la rose qu'à la fois j'éprouve et qui fait que je suis bien envoyé une forme d'harmonie, me renvoie pas, coupe court à la question du pourquoi. Pourquoi la beauté des roses? Et en même temps, je ne peux pas ne pas m'étonner devant le fait que j'éprouve quelque chose qui délivre une forme d'harmonie. Et donc bien qui ordonne mon esprit à quelque chose qu'en même temps, je ne peux pas arraisonner sur le mode du pourquoi.
Voilà. À la perception de la chose comme une totalité.
Comme une totalité, mais qui est une totalité qui met en harmonie à la fois ma sensibilité, mon imagination, en l'occurrence, l'imagination fait une fonction de médiation chez Kant entre la sensibilité et l'entendement, en fait. Et donc c'est effectivement l'expérience d'une harmonie entre imagination et entendement, quoi. Faculté des concepts, quoi.
Donc la chose devient un présent gracieux, on va dire.
Oui, c'est pas, je crois qu'on peut, oui, on pourrait sûrement faire un développement sur cette question de la grâce. Effectivement, c'est l'expérience d'un don. Quelque chose qui nous est donné, qu'on ne peut pas conceptualiser, qui est bien l'expérience d'une forme de vérité, puisqu'il y a bien une universalité qui est engagée. C'est bien ce que je veux dire quand je dis c'est beau. Je ne veux pas dire simplement c'est bon le chocolat chaud, hein. Je veux bien dire que là, ça engage quelque chose d'une universalité, que chacun, au fond, si devrait, hein, doit éprouver, doit pouvoir éprouver. Et en même temps, cette universalité, je ne peux pas la conceptualiser, cette universalité qui est sans fin, enfin, comment dire, je peux pas en rendre raison en termes de fin. Voilà, c'est très, très curieux, quoi. Et c'est un don, effectivement. C'est un don. En sens. C'est quelque chose, c'est un incalculable, quoi, de ce point de vue aussi.
Le contre-don se produit ailleurs.
Le
Le contre-don peut se produire là.
Alors, contre-don.
Pas forcément de
Ouais.
négatif.
Ouais, alors bon.
Elle n'est pas immédiate, c'est la chose reçue. Elle produit quelque chose qui peut avoir des conséquences beaucoup plus tard. Tu vois ce
Ouais,
que je veux dire?
ouais, enfin, bon, parce que comment dire, autant je crois qu'on peut parler de don, peut-être c'est, je sais pas, faudrait réfléchir pour s'engager dans une pensée du don, comme le pense, hein, j'ai l'impression que tu t'attends un petit peu à ça, Mauss, tout ça, sur le don, le contre-don, c'est-à-dire toute la question du potlatch.
Référence Moussienne. Là, au sens de Mauss, on me donne, tu donnes, c'est un contrat.
Voilà, toute la façon dont des sociétés sont
Oui,
construites sur des échanges de
c'est la
dons.
source, c'est pas dans ce sens-là. Ce serait plutôt que ça peut effectivement produire quelque chose par ailleurs. Mais c'est pas, et ça aussi, c'est pas conceptualisable. Enfin, c'est pas grave.
En tout cas, ce que ça produit, je ne peux pas m'y rapporter sur le mode de ça me sert à. Ce qui est sûr, c'est que la question à quoi ça sert est une question qui. Alors même que l'universalité est engagée, alors même que j'éprouve bien qu'il y a une forme de finalité, hein, que ça va quelque part, en même temps la question à quoi ça sert est dépourvue de sens, pour le coup. Il y a bien du sens, mais c'est pas le sens de à quoi ça sert, de l'utile, quoi. Bon, alors la beauté, donc atteint une finalité, ne cherche pas. Et alors, bon, un petit point qui est important dans la définition, ce qui est un peu si compliqué, c'est qu'il nous dit que donc la beauté est la forme de la finalité d'un objet en tant qu'il y est perçu sans la représentation d'une fin. Alors, sans la représentation d'une fin, on comprend bien pourquoi il nous parle de la forme. La beauté est la forme de la finalité d'un objet. C'est parce que cette conformité, hein, cette convenance de l'objet à notre imagination et à notre entendement, elle n'est que formelle. Elle n'est que formelle parce qu'elle ne comporte aucune fin déterminée et donc aucun intérêt que le sujet pourrait trouver dans l'objet. C'est-à-dire, c'est juste la forme, hein, de la finalité. Mais il n'y a aucun contenu donné à cette finalité. Il n'y a aucune matière donnée à cette finalité. Voilà. C'est juste l'expérience de la forme de la finalité, mais sans que cette finalité donc soit chargée d'un contenu, d'une matière. C'est pour ça qu'il dit les choses comme ça. Alors, la quatrième définition, caractérisation. Donc ici, qui se fait du point de vue de la catégorie de la modalité. Kant dit, est beau ce qui est reconnu sans concept, d'accord, comme l'objet d'une satisfaction nécessaire. C'est très proche de ce qu'on a dit. Ce qui est reconnu sans concept comme l'objet d'une satisfaction nécessaire. Bon, ce que ça signifie, premièrement, c'est que toute représentation peut être liée à un plaisir, mais le beau doit l'être. Ben, il doit absolument, nécessairement l'être. Ben, ça recoupe ce qu'on a dit, finalement. J'ai des représentants. Moi, je peux me représenter que tout à l'heure, je vais m'avaler, j'en sais rien, moi, un Armagnac, 16 ans d'âge. J'en bave déjà, mais peut-être, parmi vous, il y a des gens qui ne savent pas du tout baver, même s'ils en avaient la possibilité, quoi. Alors que Bonnard, je reprends cet exemple, ça doit, au sens d'une nécessité logique, ça doit procurer un plaisir. Bon. Bonnard, le peintre, hein, en tout cas. Alors, ça, encore une fois, ça ne veut pas dire que factuellement, tout le monde va éprouver un plaisir s'il regarde une toile de Bonnard. Mais en même temps, pourquoi ? Ben, je ne sais pas, parce qu'il ne voit pas, au fond. Mais s'il voit vraiment la toile de Bonnard, il doit éprouver une forme de plaisir. Alors, cette nécessité, hein, ne peut pas être théorique, hein, sinon on serait dans du concept de l'entendement. Elle ne peut pas être pratique non plus, sinon on serait dans un concept de la raison. Hein. Concept pratique, la pratique renvoie au plan moral. Là. C'est un peu compliqué, parce que j'ai l'air là, d'évacuer avec Kant hein, la référence à la morale, en fait, pour après y revenir. Quoi, mais... ce qui m'intéresse ici, c'est que du coup... la nécessité qui est conçue donc dans un jugement esthétique, Kant nous dit qu'elle ne peut être appelée qu'exemplaire. Donc ce qui indique la nécessité de l'adhésion de tous à un jugement considéré comme exemple d'une règle universelle, mais impossible à énoncer. Par exemple, qu'est-ce qui est beau ? Ben, par exemple, cette toile de Bonnard, là. Elle est belle. Qu'est-ce qui est beau ? Je ne veux pas énoncer une loi du beau, si je puis dire. Ben, je peux dire ce qui se passe, hein, essayer de définir avec Kant, analyser le type de jugement que ça implique, dire qu'il y a l'expérience d'une forme d'harmonie entre mon imagination et mon entendement. Mais je ne pourrais pas, ce que je disais tout à l'heure, au fond, hein, puisque je ne pourrais pas mettre en discours, mettre en concept, ce qui fait qu'une chose est belle, et que même telle chose est belle, en fait, je peux renvoyer que à un exemple singulier, quoi. Non seulement à mon expérience singulière, mais en plus à un exemple singulier, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, il y a une universalité qui procède de l'exemple. Alors qu'habituellement, on pense plutôt l'universel, et on lui donne une application, un exemple. Voilà, je vais dire, je sais pas, moi je vais faire un raisonnement en mathématiques, par exemple, et puis je vais lui donner un contenu matériel. Je sais pas, moi, ou dans un autre domaine. Je vais faire un développement sur la loi de la chute des corps, et puis je vais prendre un exemple, un cas particulier. Alors que là, dans le jugement esthétique, c'est pas comme ça. Il n'y a pas un énoncé général, définition générale conceptuelle du beau, et puis, un tableau de Bonnard serait un exemple que je donnerais de cette loi générale, mais ce serait qu'un exemple, un cas particulier. Ouais. Comme je peux le faire dans, par exemple, la loi de la chute des corps. Je vais montrer que tel machin, cette bouteille, là, hop, elle tombe à telle vitesse, qu'elle a telle masse, etc., selon tel. Bon. Non, l'universalité qui est en jeu, si vous voulez, elle procède de l'exemple. Sa nécessité, au fond, si vous voulez, chaque œuvre, chaque expérience esthétique est exemplaire de cette universalité sans que je puisse exhiber autrement qu'en renvoyant à une expérience esthétique. Oui, je suis obligé de renvoyer à chaque fois à si c'est des œuvres d'art, à telle œuvre, ouais, pour finalement exhiber cette vérité. Je ne peux pas l'énoncer en considérant chaque œuvre comme une sorte d'exemple. C'est au contraire l'œuvre qui est exemplaire de cette universalité, sans que cette universalité, justement, je puisse l'énoncer en me détachant de l'œuvre, que je ne peux pas considérer, du coup, comme un simple cas particulier, vous voyez. La question de... Oui, voilà. De ce point de vue, oui. Bon, ça recoupe, hein, du côté de l'expérience de l'œuvre d'art, le fait que ça ne s'éprouve qu'en présence, quoi. Bon. Alors, ce caractère exemplaire, ça me semble important. Donc cette nécessité découle de l'universalité du jugement esthétique, elle est subjective comme telle, elle est aussi conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle suppose l'existence d'un sens commun. Si je dis, quand je dis que telle chose est belle, donc implicitement, ce que je veux dire, c'est que tout être doit éprouver que c'est beau, en tout cas. Ça. Ce jugement prétend à l'universalité. Je suppose, implicitement, ce que je suppose, c'est donc l'existence de ce que Kant appelle donc un sens commun. Ce sens commun détermine par le sentiment seulement, et non pas par concept, mais néanmoins de manière universellement valable, ce qui plaît ou déplaît. Il faut bien que je suppose ça en tout homme. Voilà. Alors, le sens commun, c'est l'effet résultant du libre jeu de nos facultés de connaître. C'est un libre jeu, hein. Il n'est pas assigné à une fin. Donc, le sens commun, du coup, c'est la norme idéale à laquelle se réfèrent tous les jugements de goût. D'où on parlera peut-être du bon goût, avoir du goût. Ça peut être normatif en un sens négatif, mais ça renvoie aussi peut-être à ce qui est supposé pour l'expérience de certaines vérités. Bon. Je crois que l'heure passe. Alors si je passe au sublime, je vais le faire rapidement en même temps, sans c'est ça qui m'intéresse, mais le sublime et le beau, en fait, ont des caractères communs. Tous les deux, ils plaisent par eux-mêmes, d'une façon désintéressée. Il plaît de manière universelle et la forme du plaisir impliqué est nécessaire. Il plaît par eux-mêmes d'une façon désintéressée, universelle est nécessaire. Un certain type de plaisir est nécessaire, nécessairement impliqué. Mais, à partir de là, la différence c'est que le sentiment du beau, il porte sur un objet limité, fini. Il fait naître en nous un sentiment de vie intensifié. Et l'épreuve de l'expérience d'une harmonie. Alors que le sentiment du sublime, il porte sur l'illimité. Et il donne le sentiment d'un arrêt. Quand on va dire ça, il donne le sentiment d'un arrêt momentané des forces vitales. C'est en deux temps, hein, l'expérience du sublime. Une espèce de pulsation, comme ça. Hein. J'ai à la fois le sentiment d'un arrêt momentané des forces vitales, mais aussitôt suivi d'une forme d'épanchement, hein, d'autant plus fort de ces forces. Voilà comme il écrit. L'expérience du sublime. Voilà. Quelque chose qui à la fois heurte, vient me blesser, au fond. Vient porter un coup d'arrêt, justement, à ce sentiment, par exemple, d'harmonie que je peux éprouver dans le beau. Quelque chose du goût est mis en danger dans le sublime. Mais immédiatement suivi d'un d'un sentiment d'autant plus fort. Voilà. Bon, c'est l'épreuve d'une forme d'excès pour Kant, le sublime. Alors, qu'est-ce qui est en jeu dans Sublime pour Kant? Justement, c'est pas l'entendement qui est d'abord en jeu. C'est la raison. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans l'expérience du sublime? On est face à c'est l'imagination qui essaie de fournir de fournir à un appel qui est celui de la raison. Donc qui essaie de fournir à l'appel d'une idée de la raison. L'imagination ne peut pas fournir. Elle ne peut pas rendre présentable, présente, ce qui excède toute présence possible, justement. C'est ça l'expérience du sublime. C'est, en un sens, c'est la présence de l'imprésentable. Mais en même temps, justement, ça n'est pas la présence. Hein, c'est quelque chose qui excède, hein, qui excède notre imagination. Mais en même temps, toute notre imagination est tendue vers quelque chose qui l'excède. C'est à la fois donc l'épreuve d'une finalité. Plus haute encore que celle, du coup, dont on fait l'expérience dans le beau, dans le sentiment du beau. Mais d'une finalité qui, en même temps, nous excède infiniment, pour le coup. Et cet excès est douloureux aussi. Voilà. Il est douloureux. Oui, ça peut rejoindre la question des passions, notamment, oui. Un certain type de passion, en tout cas. Mais... En tout cas, je me perds dans mes... bon, j'ai plus les voix, bref. Tu me... Quand on va dire... C'est voilà le point quand même qui m'intéresse. Oui, ce que je voulais dire, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que dans le sublime, il y a une espèce de, il y a une crise. Et qu'est-ce qui est mis en crise? On peut dire finalement, c'est quasiment tout l'appareillage, on dirait facultaire, quoi. C'est-à-dire, si vous voulez, tout le système qui fait qu'on peut juger, tout le système qui fait qu'on peut porter un jugement de goût. Et c'est ça qui est mis en crise. Pourquoi? Parce que c'est porté à sa limite. Et que ce qui travaille, je crois, dans l'épreuve du sublime, une des choses qui travaille, c'est un des écueils, mais un écueil qui est en somme actif, quoi. C'est l'effondrement de tout ce qui nous porte, hein, de tout ce qui fait sens, là encore. Dans l'expérience esthétique. C'est-à-dire, ce qui nous guette, c'est le dégoût, en fait. Voilà. Et que la chose s'effondre dans le dégoût. Voilà. C'est dire que le sublime, c'est vraiment une mise à l'épreuve du goût. C'est-à-dire, une mise à l'épreuve de notre faculté même de juger. Hein. Elle est tellement tendue vers quelque chose qui l'excède, mais qui, en fait, fait loi pour tout notre jugement esthétique. Qu'en même temps, ce qui est risqué, c'est quand même quelque chose, hein, d'une perte, hein, ça peut s'effondrer, quoi. Il y a bien quelque chose comme l'expérience d'une perte. Et puis le deuxième point qui m'intéresse, c'est que quand on dit que ce qu'on appelle sublime, c'est ce qui est grand absolument. Nous appelons sublime ce qui est grand absolument, c'est-à-dire grand au-delà de toute mesure possible. Bon. Grand au-delà de toute mesure possible. Voilà. On a un rapport à ce qui est grand absolument. Bon, il donne des exemples, hein. Saint-Pierre de Rome, les pyramides d'Égypte, c'est les exemples de Kant, vous voyez, c'est pas. Mais alors il explique, c'est intéressant, il dit que, par exemple, pour les pyramides d'Égypte, il faut une certaine distance pour éprouver leur sublime. Parce que si on est trop près, on voit juste telle pierre, et puis bon, ouais. Mais si on est trop loin, alors en ce cas-là, c'est pas grand absolument, on fait pas l'expérience de quelque chose qui est grand absolument, on va le situer dans un paysage, peut-être lui sera sublime, mais donc il faut une certaine distance pour qu'à la fois on soit renvoyé à ce qui finalement nous permet de mesurer quelque chose, hein, toutes ces strates, et qu'en même temps, cette possibilité de mesurer finalement soit renvoyée à une mesure, celle de la pyramide, qui nous excède absolument, quoi. L'expérience du sublime pour lui, là, par exemple. Notre capacité à calculer, à concevoir, est renvoyée à une loi qui l'excède infiniment, quoi. Voilà. À un ordre qui l'excède. Ce qui est grand absolument. Alors, tout ça ne fonctionne, bien sûr, que relativement, hein, à un certain ordre qui est celui de la sensibilité, quoi. À un certain état de notre corps, quoi. À laquelle on se mesure, là. Bon. Alors, ce qui me semble intéressant, là, je pense que vous avez entendu, hein, déjà tout de même résonnait avec un certain nombre de choses que j'avais essayé de mettre en place auparavant. Bon, c'est quand même que dans la question du sublime, la question de la moralité réintervient pour Kant, par contre. Voilà. Elle réintervient. Ce qui fait loi pour la sensibilité, c'est une idée. Nous sommes renvoyés, là. À ce qui fait sens absolument pour nous, mais qui nous excède absolument. Et il y a un sublime de la moralité. C'est complexe chez Kant, mais ce qui travaille au cœur du sublime, c'est quand même une certaine dimension de la... Enfin, qui touche à l'impératif, au fond. L'impératif catégorique, quoi. Alors, si je reviens sur un certain nombre d'éléments qu'on avait mis en place, moi, au fond, de manière centrale, ce qui m'intéresse, c'est cette idée que la langue commune fonctionne comme une mesure du sens. Aussi paradoxalement que ça puisse apparaître. La langue commune comme mesure du sens. Tout le problème, c'est ce que j'essayais de montrer, c'est qu'en même temps, cette mesure du sens, c'est pas une mesure qui est une mesure possédée. Cette mesure du sens, elle ne cesse d'être renvoyée à quelque chose qui excède tout sens acquis, hein, à une loi de l'excès ou du retrait de la langue telle qu'elle est constituée. À la fois, il s'agit bien en philosophie, en littérature, de travailler avec la langue commune, dans la langue commune, pas de partir strictement ailleurs, et en même temps, il s'agit toujours de travailler, de la travailler, de la pousser à ses limites, au fond. Au fond de s'y mesurer, mais de s'y mesurer à partir d'un ailleurs, hein, qui l'excède et qui fait loi. Voilà. Bon. Ben voilà, il me semble, ce que permet de penser justement à travers cette question du sens commun, hein, permet un peu de penser déjà Kant, justement, à travers un certain nombre de catégories assez fondamentales de son fondamentale, de son esthétique. Je voulais un peu en guise de conclusion, enfin, voilà, dire quelque chose. Il me semble que qui travaille Kant, ce philosophe quand même des Lumières, quoi, hein, qui est quand même donc un philosophe qui a à voir avec l'entrée des masses sur la scène de l'histoire, quoi, comme sujet à l'histoire, quoi. Il y a, il me semble, à travers la pensée de Kant, quelque chose qui nous invite finalement peut-être à refuser quelque chose qui s'est mis en place, je ne sais pas si on peut dire dès à l'origine de la philosophie, quoi, mais en tout cas, qui s'est mis en place avec Platon, quoi. Platon condamne l'opinion. Platon, il mène une lutte très, très dure contre l'opinion. Et l'opinion, c'est quand même la chose du peuple, au fond. Et il le fait avec des bonnes raisons. Il le fait avec de bonnes raisons. Pourquoi ? Parce que on ne confondra jamais l'opinion et la vérité, quoi. De toute façon, au fond, c'est... on ne peut pas en rester au niveau de l'opinion. Platon ne parle pas comme ça, mais enfin, quand même, c'est ça son idée, une de ses idées. On ne peut pas en rester au niveau de l'opinion. Pourquoi ? Parce que l'opinion, finalement, ce qui est promeu, c'est le relativisme généralisé, quoi. Hein. C'est mon opinion, t'as ton opinion, j'ai la mienne. Cette formidable liberté de l'opinion dont on parle tant, qu'est-ce qu'elle signifie, au fond ? Elle signifie que si t'as ton opinion, si j'ai la mienne, si je considère ça vraiment comme un sommet pour moi, je suis en train de dire finalement, que ce que je pense n'a strictement aucune valeur, puisque si je reconnais que mon opinion vaut celle de tout autre, et que celle de tout autre vaut la mienne, bah, non, mais en tout cas, ça signifie que quoi que je dise, et de quelque façon que je puisse l'argumenter, quiconque argumentera dans un sens exactement inverse, au fond, aura tout autant raison de moi, puisque c'est à chacun son opinion. Finalement, chacun son opinion, ça revient à dire à chacun sa vérité, quoi. Et si on dit qu'à chacun sa vérité, il n'y a pas de vérité. Enfin, on ne parle pas de vérité, en ce cas. Non. Mais là, c'est des choses... je ne sais pas, Socrate dirait simplement, il dirait... bon, mais si c'est à chacun sa vérité, ça veut dire que ce que tu vas énoncer comme étant ta vérité, mais que tu prétends en même temps être une vérité, être de la vérité tout de même, tout à chacun pourra dire, encore une fois, exactement le contraire, ce sera quand même de la vérité. Non, ça va pas, hein. Donc, voilà, on peut pas dire, hein, que... C'est une des choses que met en place Socrate, sous forme de dialogue, des sophismes. Enfin, c'est une démonstration par l'absurde, au fond. Hein. Si un sophiste dit ça, dans quelques dialogues, on peut démontrer tout et son contraire. Pourquoi, au fond ? Parce que la vérité n'existe pas. Socrate dira, ah bon, hein, La vérité n'existe pas, tu veux dire que tu l'affirmes que la vérité n'existe pas. Tu veux dire qu'il est vrai que la vérité n'existe pas. Voilà, donc. Non, voilà, une des certitudes, une des choses que met en place Socrate, simplement, très simplement, mais c'est que il y a une chose qu'on peut démontrer, premièrement, qui est une démonstration par l'absurde, finalement. Hein. C'est que la vérité existe, et que ça, on en est certain. Qu'est-ce qu'elle est, c'est un autre problème, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle existe, quoi. Bon, et en tout cas, pour revenir à ce dont je parlais là, c'est que ce qui est sûr, c'est que, par exemple, je dirais pas que 2 plus 2 égale 4, c'est une opinion. Je vais pas dire c'est mon opinion, ça n'a aucun sens. Je veux dire c'est vrai, quoi. Je confonds pas l'opinion et la vérité. Et Platon dit qu'il faut pas confondre l'opinion et la vérité. Et c'est d'ailleurs vraiment une des critiques qu'il adresse à la démocratie, quoi. Ça veut dire quoi la liberté d'opinion? Ça veut dire que la vie de tout un chacun, la vie de tout le monde, aussi peu compétent soit-il, aussi ignorant soit-il, est contre l'expérience qu'on fait de ce qu'est la vérité, dans les sciences notamment. Eh bien, en démocratie, l'opinion de tout un chacun vaut autant que celle de celui qui sait, qui se donne la peine de savoir. Ben, il dit, ben voilà, la démocratie, hein? Oui, mais alors bon, parce que bon, Platon, il n'est pas démocrate, hein? C'est quelqu'un qui s'oppose à la démocratie, hein? Clairement, c'est quelqu'un qui s'oppose à la démocratie. Il condamne, j'ai envie de dire, il condamne dans le même mouvement, hein, la démocratie et l'opinion, quoi. Bon. Oui, mais alors, bon, parfois c'est un peu un reproche qu'on a fait à Platon, comme ça, hein, parce que lui, il veut un philosophe roi. C'est un reproche qu'on a fait à Platon, en disant parfois, sa république, ben, finalement, hein, est-ce que c'est pas une sorte de modèle lointain, mais finalement rigoureux, de ce qui est totalitarisme, quoi. Non. Ben oui, mais à l'inverse, si on dit, ben oui, mais il n'y a pas la vérité, alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire à chacun sa vérité, est-ce que... C'est le problème, quoi. Mais oui, mais si on dit à chacun... Oui, mais en même temps... Non, mais bon, la vérité, ça dépend comment on l'entend quand même. Hein. C'est-à-dire qu'ensuite, le réel est infiniment ouvert, lui. Bon, donc on peut très bien s'entendre sur le fait que, bon, sur tout un tas de vérités, c'est plutôt la vérité qui ouvre sur la complexité et la diversité du monde, plutôt que l'inverse. C'est pas la vérité qui ferme de ce point de vue. Voilà. Hein? Mais c'est-à-dire que le problème du totalitarisme, si on le rapporte à une certaine conception de la vérité, c'est l'idée que on pourrait définir un ordre, hein, un ordre, comment dire, on pourrait arrêter aussi la recherche de la vérité, on pourrait régler et ordonner qui, par avance, au fond, qui a droit à énoncer ou à énoncer la vérité, à la pensée. Il est plus là le problème. En fait, c'est peut-être pas un problème. Enfin, bien sûr que chez Platon, l'idée que, voilà, pour accéder à la vérité, c'est l'expérience qu'on fait tous. Enfin, on ne naît pas comme ça géomètre, quoi. C'est un travail, il faut des preuves, il faut, bon, voilà. Eh ben, pour penser la politique aussi. Voilà. pour penser l'ordre social aussi. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Et donc, il faut une république de savants, au fond, hein, un sens hein, des modèles de Platon, parce que c'est plus riche en même temps, Platon, mais en même temps, c'est une espèce de république de savants. Il faut donner le pouvoir à ceux qui ont savoir. Quoi. C'est vrai. Bon, maintenant, le savoir est ouvert. Mais maintenant, il faut certaines capacités pour pouvoir s'ouvrir. Hein, ou aller dans le sens de l'ouverture qui est cette expérience, cette épreuve de la vérité. Quoi. Voilà. Ça fait problème. Alors bon, non mais ça, Platon c'est plus complexe que ça parce qu'en même temps, parce que Platon en même temps, tout en critiquant bien sûr la démocratie, est quelqu'un qui fait du dialogue une épreuve hein, fondamentale de la vérité. Il est évident que cette place qu'il accorde au dialogue lui vient au fond de sa pratique démocratique. Et on est redevable hein, à l'expérience démocratique. Et c'est quand même le dialogue qui est mis en œuvre hein, dans l'ensemble de ces textes. C'est pas tout un Platon quoi, mais bon, en tout cas sur cette question de l'opinion, cette condamnation de l'opinion chez Platon quoi. Il y a des bonnes raisons. Hein. On voit bien ce que ça peut dire du coup la dictature de l'opinion quoi. C'est vrai que ça a quand même porté. Enfin, c'est un peu un des fondamentaux de la philosophie. Dans un cours de terminale d'initiation à la philosophie, c'est une des premières choses qu'on met en place. Pas confondre l'opinion et la vérité, mettre en question les opinions communes, tout ça. Il me semble qu'on pourrait se demander si... Oui, un peu avec le parcours là, que j'essaie de faire, s'il ne faudrait pas penser en mettant l'opinion autrement, c'est-à-dire penser une espèce d'ambivalence essentielle dans l'opinion. C'est à la fois effectivement ce risque hein, de se clore sur soi, l'opinion. De se clore sur un relativisme absolu, quoi. J'ai mon opinion, t'as la tienne, et puis voilà, ok. Bien sûr, c'est ce risque-là. Mais au fond, l'opinion, elle a aussi une dimension expressive. Voilà. C'est aussi ce qu'on dit. Voilà. Alors, ce qu'on dit, le risque, encore une fois, c'est le risque que ce qu'on dit, ce soit simplement les on-dit, toutes les idéologies qui traînent, mais c'est aussi ce que communément on peut en dire de notre vie telle qu'on l'éprouve, voilà. Telle qu'on essaye de la penser, même si cette pensée est balbutie. Mais en même temps, ce sont les mots par lesquels on essaye de se mesurer. De donner la mesure de ce qu'est notre vie, aussi, commune. Et du coup, la vérité de l'opinion est absolument, hein, encore une fois, elle est risquée, etc. Il faut se... Mais peut-être que ce qui fait que la philosophie travaille dans la langue commune, et que finalement la philosophie n'arrête pas de travailler contre l'opinion, c'est qu'en fait la philosophie travaille avec l'opinion, si je puis dire. Peut-être il faut penser une positivité de l'opinion. Voilà. Pas simplement, pas l'opinion au sens... Oui, mais qui a un danger toujours renaissant et qui est l'objet d'un travail permanent. Au fond, l'opinion, c'est peut-être une des dimensions de ce qu'il faut considérer l'opinion et avec elle, du coup, la langue commune, telle que les choses se disent et se parlent. Voilà. Avec tout ce que ça porte d'ambiguïté et de risque, mais en même temps, ce dans quoi, finalement, communément, voilà, nous essayons de trouver une mesure commune. Quoi. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Tu as raison, Platon, de ce point de vue. Mais ce n'est pas non plus entièrement le faux. Voilà. C'est en tout cas, en somme, là où nous en sommes. Et de ce point de vue, il y a quelque chose qui est peut-être irréductible dans la langue commune, c'est que la langue commune, au fond, ce n'est pas une langue simplement instrumentale, justement. C'est une langue qui a une épaisseur d'existence, quoi. Voilà. Et comme on parle, c'est pas simplement un certain nombre, on peut pas saisir des mots du commun comme un certain nombre d'outils. Il faut bien voir que la langue commune dit en même temps, nous l'habitons. Voilà. C'est pas simplement un outil, la langue commune, nous l'habitons. Nous la sommes. Voilà. Je suis ma langue. Mon existence, je la mesure à ces mots-là. Voilà. J'essaie de me rapporter à moi à travers ces mots-là. Et je crois que la langue, du coup, commune, a une épaisseur d'existence qui fait que ce qu'il s'agit de penser là, c'est bien notre existence, justement. Et on ne peut pas réduire là les mots à simplement des moyens, des instruments, des techniques. On est obligé de se rapporter à ce qu'on dit comme on le dit. Voilà. Et je crois que c'est pour ça que la littérature et la philosophie travaillent avec, dans la langue commune, pour les réfléchir. C'est-à-dire, en même temps, ça induit des formes de distance, bien sûr, tout un tas de déplacements. Il ne s'agit pas d'acquiescer, hein, à ce qu'on dit comme on le dit, et ce serait vrai parce qu'on le dit comme ça. Non, mais en même temps, il y a une dimension d'expressivité qui, elle, est irréductible. Voilà. Qui fait qu'il y a une facticité de la langue. Voilà. Ce qu'on dit, ça vaut en même temps comme fait. C'est pas simplement un énoncé sur un certain nombre de choses. Ça dit en même temps ce que nous sommes. Voilà. Ce qui est engagé dans ce qu'on dit communément, c'est pas seulement une pensée sûre, c'est l'être. Voilà. Et il me semble que mais voilà, c'est une des raisons, je crois, pour laquelle philosophie, littérature et sciences humaines aussi. Pourquoi les sciences humaines, quand même, pourquoi est-ce qu'un livre d'histoire, ça s'écrit, ça se lit, hein, dans notre langue. Ça nous semble évident parce que on pratique ça familièrement. Ben oui, j'ouvre un livre sur, je sais pas, sur Philippe Auguste, je comprends les mots. Il peut y avoir quelques termes techniques, pourquoi pas, en histoire aussi, mais je comprends les mots. C'est des phrases, c'est du récit. Comment ça se fait que cette science, assez complexe, mais enfin, quelle histoire, au fond, travaille dans cette langue commune? Mais ça a à voir avec le fait que, effectivement, c'est une science humaine. Et que, en histoire, au fond, l'homme n'est pas simplement en position d'objet, quoi. Mais qu'on comprend l'histoire que parce qu'en même temps, on en est sujet, quoi. Voilà. Et cette subjectivité de la langue, qui n'est pas la subjectivité simplement au sens du, hein, qui nous renverrait à un pur subjectivisme, hein, un pur relativisme. Non, cette subjectivité au sens de, il y a ici une pensée qui se déploie à partir de notre expérience en tant que sujet de l'histoire. Et si nous sommes sujets de l'histoire, il faut bien que nous pensions comme sujet de notre langue, voilà, de notre langue commune. Et jamais on pourra nous constituer simplement un objet de l'histoire. Bon, on fait un peu vite, ce serait peut-être critiquable, peut-être dit comme ça, mais voilà l'idée. Ben voilà, des points. Bon, il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes, tout ça. J'ai fait plus un travail de mise en résonance. Hein. Mais en tout cas, voilà, je voulais arriver à cette idée par laquelle je crois qu'il faut qu'on réfléchisse autrement la langue commune, notre langue commune. Peut-être d'autant plus aujourd'hui, on a quand même une grande tentation, hein, la technicisation des langues, de leur la façon dont, comment dire, de leur technicisation, la façon dont on veut penser la langue, on tend à penser la langue. Pour tout un tas de raisons, et tout particulièrement des raisons économiques, au fond, on veut penser la langue simplement comme un instrument, quoi, un outil. C'est la définition d'ailleurs du Pierre Robert, qu'est-ce que la langue, un instrument de communication. Ben, peut-être que c'est beaucoup plus que ça. Voilà. Voilà. Non, je dirais pas ça. Ouais. Oui. C'est une espèce de régime de l'ambiguïté totale, hein, de la langue commune, hein, que j'essaie de dégager. Mais du coup, peut-être, voilà, c'est de repenser un peu l'opinion, hein, autrement aussi.
Dans le débat sur l'Odi, là, de Comte, c'est-à-dire...
Sur le...
Ouais. Je m'attendais à voir justement par rapport au sublime une rupture avec la langue commune. Et elle n'est pas apparue. Enfin, justement entre la beauté et le sublime, dans la beauté, je peux m'en référer à la langue commune, sans commun, alors que dans le sublime, justement, il y a.
Oui, il y a un excès, mais de toute façon, dans la langue commune, on n'arrive pas d'être dans l'excès. Et pour nous tous, il y a les mots de l'excès, il y a des tas de mots que je ne prononcerai pas là, et que vous ne prononcerez pas non plus. Qui sont, curieusement, des mots du corps. L'injure, en général, ça parle du corps. Et on sait bien que nous tous, on fonctionne dans un certain ordre du langage, un ordre, c'est-à-dire qu'il y a des limites, quoi. Et ces limites touchent au corps, hein. Elles touchent au corps de l'autre. Et donc on sait bien que parfois on peut être dans l'excès, quoi. Alors parfois cet excès, qui peut parfois jusqu'à comment dire frôler le dégoût, hein, risquer le dégoût. Cet excès peut être sublime. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que on sort purement et simplement la langue commune.
Enfin, je veux dire autrement. Je suis étonné dans le moment de temps qui est exposé que en fait par opposition à la beauté, justement, le sublime sur la beauté, moi j'aurais tendance spontanément à aller m'orienter plus par là. Enfin, dire que justement ce qui est dans le sublime qui est dans la beauté, ce serait justement vous l'avez dit à un moment, une forme de rupture en deux temps dans le sublime. Et justement, si pour moi, dans le sublime, il y a vraiment cette rupture, enfin, et cette rupture, elle s'opère avant tout en termes de perte du sens commun, en fait.
Oui, non, mais enfin, perte du sens commun. Pas de perte du sens. Oui, c'est ça. Oui, sens commun. Oui, c'est-à-dire que chez Kant, c'est vrai qu'il utilise l'expression de sens commun en la déplaçant par rapport à l'usage, à la compréhension qu'on a communément de ce terme. Mais enfin, c'est tout le problème. C'est-à-dire que moi, je dis pas qu'il faille avaliser la langue commune telle qu'elle est pratiquée, tout ça. Elle porte tout un tas de bêtises, de choses complètement impensées. Mais en même temps, il s'agit de s'y mesurer, c'est ça que j'essaie de dire. Et la façon dont on s'y mesure peut se faire sur le mode, au fond, d'une certaine... je me rapporte aux catégories Kant dans l'esthétique, certaines expériences d'une forme d'harmonie, mais aussi sur le mode d'une forme d'excès, quoi. Je ne sais pas, en littérature, c'est pas pareil quand même. Georges Bataille, et je crois qu'il y a du sublime chez Georges Bataille, et on touche au dégoût, quand même, c'est un risque. Et parfois, vraiment, on tombe dedans, plus lire même. Et puis, je ne sais pas qui on pourrait prendre comme exemple. De la belle langue classique, voilà, qui serait plus du côté du beau, quoi. Je sais pas qui on pourrait trouver. C'est plus ça l'idée, c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose qui est tant sublime, il y a une expérience effectivement d'un excès. Alors effectivement, d'un excès par rapport à ce qu'on éprouve ordinairement, tout ça, il s'agit bien de déplacer quelque chose, de réfléchir quelque chose, de produire un déplacement, donc, mais jusqu'à un excès, par exemple. Hein. Mais en même temps, je veux dire, même chez Bataille, par exemple, ou Artaud, je ne sais pas, cet excès, il se fait quand même dans l'ordre, si je puis dire, dans l'ordre hein, qu'on excède, justement, mais en se mesurant à la langue telle qu'on la parle, quoi. Ouais, ce que je veux dire, j'ai envie de dire, c'est de posture par rapport à la langue, quoi. Si on essaie d'appliquer un peu les catégories de Kant, hein, le beau, le sublime. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez l'air...
C'est une question d'information. Est-ce que la beauté, le sublime chez Kant, est-ce que c'est une catégorie réservée à des hommes ou est-ce que ça s'applique aussi
à... Non, ça s'applique aussi. Ça s'applique aussi à la nature, par exemple. Ouais. Ce qui fait. Bon. Ça implique toute une réflexion après, effectivement. Hein ? Et à la langue, c'est-à-dire à la, au fait qu'on le dise, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Non, en tout cas, effectivement, chez Kant, ça s'applique aussi à un paysage. À... Voilà, il y a des paysages sublimes. Voilà. Mais je sais pas, hein, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, vous savez que par exemple, vous avez jusqu'à la fin du XVIIIe siècle considéré que les montagnes étaient laides. Hein, c'est vraiment avec, c'est avec Rousseau, c'est dans les Confessions, hein, si je me rappelle bien, qu'on a. Il explique comment il fait tout un parcours par les Alpes, là, hein, quand les jeunes hommes, et je crois que c'est de ce texte-là, c'est de Rousseau, c'est sûr, hein, qu'on s'est mis à considérer que les montagnes étaient, en fait, non pas belles, mais sublimes. D'ailleurs, c'est très étonnant, enfin, j'ai un tout petit détour, là, mais cette pensée de Kant, là, se développe en 85, enfin, 1785, Il y a un historien très intéressant, je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous connaissent, s'appelle Corbin, qui vient de l'école des Annales, mais qui fait de l'histoire des mentalités, disons, qui travaille, qui a écrit un livre sur l'histoire des odeurs. Hein. Il a écrit un livre sur les rivages. Voilà. Le désir de rivage. J'ai plus exactement le titre en tête. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il montre que entre 1750 et 1850, il y a une mutation dans la sensibilité européenne, dans la façon dont on se rapporte au rivage, les bords de mer, quoi. Parce qu'avant 1750, communément, on pensait que les bords de mer, c'était quelque chose de laid, quoi, c'était hideux. C'était vraiment pas un lieu de villégiature, c'était moche, c'était laid, c'était voilà. Alors il essaie de comprendre pourquoi. Et ce qui est sûr, c'est que entre 1750 et 1850, et après 1850, tout le monde va trouver un gros clé. Le bord de la mer, c'est pas seulement beau, c'est sublime. Voilà. C'est-à-dire cette façon de se rapporter, parce que ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est que ce soit contemporain quand même de Kant. Voilà. C'est que communément, hein, on va, il y a toute une partie de notre sensibilité, finalement, qui va venir à s'éprouver dans une certaine vérité d'elle-même, une certaine vérité commune d'elle-même, sur le bord de la mer. C'est-à-dire sur le bord, ouais, dans ce rapport à la limite et en même temps avec en face de soi l'infini, etc. Voilà. C'est intéressant de voir pourquoi le rivage, alors pourquoi ça déplaisait tant, et Enfin, bon, notamment, évidemment, parce qu'elle aimait être extrêmement dangereuse, mais aussi parce que ça renvoyait à l'inconnu, et que ça renvoyait aussi à un inconnu biblique, puisque le bord des rivages était souvent figuré comme finalement ce qui faisait limite entre le monde voulu par Dieu et puis finalement des restes, des vestiges de chaos, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on s'imaginait que au fond des mers, il y avait tout un tas de monstres, des rixiens, enfin, etc. Voilà, bon. Mais donc, en tout cas, ce qui me semble intéressant là-dedans, parce qu'il développe ça, il pense pas du tout à Kant. Il n'y a pas un mot sur Kant, il pense pas à lui, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même comment il y a, au XVIIIe siècle, cette espèce d'expérience, commune, qui va finalement informer la sensibilité commune, du bord du rivage, comme d'une expérience qui finalement recoupe un certain nombre de caractéristiques qui sont celles du sublime, quoi. Mais pas parce qu'on n'est pas obligé toujours d'opposer l'historicité et la vérité, quoi. Je veux dire que les mathématiques aussi ont une histoire, quoi. Et donc on peut penser qu'il y a une certaine épreuve de soi, expérience de soi, et corrélativement expérience du monde, et finalement qui a une histoire, qui peut-être à un moment se donne à s'exprimer, à se déployer ou pas, quoi.
L'écrit en lui-même, qui en termes de chez Kant apparemment l'écrit conduit à la chute, quelque part, je dirais.
Oui, et en tout cas, dans le sublime, il y a l'expérience d'un arrêt. Alors, mais il est momentané, Mais en même temps, il y a cet arrêt, et effectivement, ce qui pointe, c'est quand même la possibilité d'un arrêt total, définitif, quoi. Enfin, bon, c'est le...
Et après, certains, ça m'échappe, ils ont parlé de l'excès par renversement de signe, c'est-à-dire comment de l'excès faire un acte créateur, quoi. L'excès en tant que puissance, non pas comme en tant que directive, quoi, forcément,
mais enfin, je sais pas, mais là non, c'est dans le sublime, c'est bien l'idée que comment dire, l'excès, est positif, enfin c'est une certaine épreuve de vérité au fond, là, hein, c'est pas un excès qui serait pure perte, quoi.
Donc déjà là, chez Kant, il y a bien la possibilité de renversement, si il y a arrêt.
Oui, mais bon, sur des choses déterminées, hein, faut quand même que ça engage l'universalité, tout ça, hein, c'est pas tout excès, tout. Je me rends compte que j'ai pas marqué peut-être assez fortement, j'ai même pas énoncé clairement. C'était quoi le lien directement avec la bêtise? Bon. Ouais. Non, pas des conneries, mais tu m'y fais penser, voilà, en tout cas. C'est pas... Non, c'est pas ça qu'a fait dire. Non, c'est que, voilà, je pense qu'effectivement, si chez les écrivains, beaucoup d'écrivains du 19e siècle, si la question de la bêtise est si forte, et beaucoup d'écrivains chez qui on la repère pas. Pourtant elle est visible, je sais pas, par exemple. On pense rarement que chez Victor Hugo, par exemple, que Victor Hugo est quand même obsédé par la bêtise. Tout de suite on pense à Flaubert, c'est vrai, mais Victor Hugo aussi. Quand même, si on lit, il faudrait regarder ensuite dans les textes, un travail d'analyse littéraire, tout ça, mais si on regarde, L'homme qui rit, par exemple. C'est un texte extraordinaire, l'homme qui rit, vraiment. Bon. Immense roman, quoi. Et donc, vous savez, c'est l'histoire d'un enfant, hein, qui a été vendu parce qu'il vient d'une famille, en réalité noble, mais ça on le sait pas au début, enfin bref. Et puis qu'on lui a grandi sa bouche, hein, enfant, de sorte que toutes ses mâchoires, ses gencives a été relevé, de sorte que toutes ses dents comme ça remontent, et qu'il a donc un sourire, hein, vraiment accroché aux oreilles, un sourire permanent, et qu'à chaque fois qu'il a une émotion, et d'autant plus s'il pleure, il sourit d'autant plus, quoi. Hein, ouais. C'est absolument horrible, hideux, et en plus c'est un enfant. Et il est vendu, on l'a transformé comme ça, en même temps, pour que ce soit un objet de foire, quoi. Voilà. Et plus il peut être terrifié, on comprend ça, plus il peut être terrifié par les gens qui le regardent, plus il rit. Voilà. C'est terrible, cette espèce de rapport d'inversion, comme ça. Et alors en même temps, évidemment, cet enfant du coup est terriblement adulte, cet enfant qui est dans la misère absolue en même temps va se révéler être un père d'Angleterre. Enfin. Il est débarqué au début du roman sur une côte là, en Angleterre, et puis il va errer. Il va être abandonné, là, il va errer, et puis il va tomber sur un personnage avec une roulotte, là. Et cette roulotte, elle est tirée par un loup. Et ce personnage appelle son loup Homo, et lui-même s'appelle Loupus. Bon. La question de la bête, ici. La question de cette façon de se rapporter à ce qui fait sens dans une certaine aussi épreuve du corps, effectivement, ici d'inversion aussi des signes. Enfin, bon, faudrait réfléchir, hein, c'est comme ça, indicatif, quoi. C'est quelque chose qui est très puissant chez vous, quoi. Bon, enfin bref, en tout cas, la bête grimaçante, quoi, au cœur du texte. Je crois que si la question de la bêtise est si centrale chez tout un tas de grands auteurs du 19e siècle, c'est parce que je crois qu'effectivement le 19e siècle, qui est donc ce siècle, le grand siècle au fond de la démocratisation, on peut dire, en tout cas l'entrée des masses comme sujet de l'histoire, quoi, qui est en même temps le grand siècle du roman, quoi. Et un siècle dans lequel les écrivains font une certaine épreuve de la vérité de la langue, comme en même temps d'une épreuve d'une certaine vérité de la littérature, quoi. Et qui rencontre du coup, je crois, cette question de la bêtise comme ce qui n'est pas simplement à dehors de l'intelligence, ce que j'avais hein, au tout début, mais au fond la bêtise comme ce qui en même temps habite. Habite notre langue, parce que la bêtise c'est le lieu commun, mais que ce lieu commun et cette bêtise est en même temps ce avec quoi on travaille tout le temps, quoi, et qui a au fond presque une positivité de cette bêtise, au fond, au sens où ce dont il s'agit de faire l'épreuve, c'est de la langue telle qu'elle est, toute bête, si je puis dire. C'est bête, mais on parle comme ça. Voilà. Et bien Flaubert, il fait avec ça. C'est bête, mais en Normandie et dans 20 villages de France, il y a des Madame Bovary, et ça sent, et ça pense, et ça parle comme ça. Et bien la littérature, il faut qu'elle ait affaire avec ça. Affaire avec ça. Il y a une pensée qui a affaire avec ça. Avec ça. Voilà. Quel que c'est. Et c'est pas, il s'agit pas d'être dans la posture dans laquelle on a pu être dans des littératures antérieures, par exemple au XVIIIe siècle, dans lesquelles la bêtise est mise à distance. Hein, on se place soit du côté de l'intelligence pour désigner ou dénoncer une bêtise, parfois vraiment à juste titre. Voltaire et Zadig, par exemple. Voilà. Et Voltaire, c'est quand même quelqu'un qui parle au nom d'eux. Hein, qui, quand même, c'est pas du tout la position dans laquelle peut être Hugo, quoi. À mon sens. Voilà. On arrête là, vous avez une question? On arrête là? Bon.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.